Et c'est Lydia Guiraud. Bonjour Lydia.
Bonjour Lydia.
Bonjour.
Un électeur sur deux pourrait être privé de son vote à la présidentielle. C'est ce qu'a tweeté Gilbert Collard. C'est une situation évidemment très inquiétante pour beaucoup d'équipes de campagne.
C'est une véritable bombe civique à retardement et les candidats multiplient les alertes. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, pour ne citer que ceux qui sont au-dessus des 10%. Et comment on pourrait imaginer l'élection présidentielle sans eux ? La situation est si grave que le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, avait suggéré la mise en place d'une réserve de parrainage d'élus. François Bayrou a repris l'idée pour promouvoir sous la forme d'une banque des parrainages, qui compte aujourd'hui seulement 70 à 80 parrainage d'élus. Et David Lisnard, maire de Cannes, mais aussi président de l'AMF, a lui donné l'exemple en accordant son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, dont il combat farouchement les idées.
Alors, est-ce qu'il y a vraiment un risque ou est-ce que c'est une forme de grand bluff de la part des candidats qui n'ont pas encore leur parrainage ?
Bon, nous connaissons, lors de chaque élection présidentielle, les faux suspens sur les parrainages. C'est la petite comédie classique. Des semaines durant lesquelles les candidats entretiennent la tension pour finalement s'offrir une séquence du type « Nous avons triomphé face à l'adversité aux difficultés du système ». Ça, c'est pour la petite com. Mais plus sérieusement, il semble que cette fois-ci, il rencontre de vraies difficultés. Et la comparaison avec le nombre de parrainages à la même période en 2017 a de quoi interpeller. D'ailleurs, les candidats ne font plus campagne en ce moment. Ils dégagent un maximum de temps pour appeler et convaincre les maires. On a vu les images de Marine Le Pen au téléphone. Éric Zemmour a même annulé son déplacement à La Réunion. Oui. C'est ubuesque à 6 semaines du premier tour.
Alors, cela dit, il connaissait les règles.
Ah bah oui, une candidature, ça ne s'improvise pas, c'est vrai. Et des mini-partis comme Lutte Ouvrière, par exemple, comme donc celui de Nathalie Arthaud.
Qui était ça... hier matin à ce micro, elle nous a rappelé son secret, c'est-à-dire qu'elle, pendant un petit bout de temps, elle s'en occupe, quoi.
Exactement, ils savent entretenir les liens avec les maires et les élus pour s'assurer les parrainages, élection après élection. 0,5% dans les sondages, mais déjà qualifiés pour le premier tour de la présidentielle, ça c'est des professionnels. Et certains pensent que c'est la fin de l'anonymat seulement qui a été imposé par François Hollande, qui a limité la volonté des maires de s'engager. Mais c'est une partie seulement de l'explication, car ils étaient déjà moins de 30% à parrainer quand il y avait l'anonymat. Quel exemple, quel sens du civisme de la part de nos élus. Et aujourd'hui, en réalité, le plus grand frein pour les maires, c'est la peur. C'est la peur des conséquences d'un parrainage, peur des conséquences politiques sur les investitures, les soutiens, mais aussi les subventions. Et aussi la peur des réactions des administrés. Il faut se souvenir de la montée quand même de la violence physique également contre les élus et tous les représentants de l'autorité. Donc nous avons aujourd'hui des élus qui sont tétanisés et ne veulent pas s'engager.
Oui, un parrainage n'est pas non plus un soutien, hein, c'est ça, il faut bien le rappeler. Quoi, hein.
C'est ce qu'il faut rappeler de manière incessante. Parrainer, ce n'est pas soutenir, c'est faire vivre la démocratie, il faut le marteler. Et les menaces des caciques de LR, qui considèrent que les élus qui pourraient parrainer Éric Zemmour ou Marine Le Pen, je les cite, s'auto-excluraient du parti, sont une grave erreur. Car l'enjeu ici n'est pas le parti, il s'agit de la démocratie, de la France. Des élus qui se planquent pour parrainer car ils ont peur, c'est comme si des abstentionnistes se plaignaient de ceux qui nous gouvernent. Ça n'a pas de sens. L'heure est à la responsabilité de tous, au parrainage citoyen.
Merci Lydia Guiraud. On y reviendra tout à l'heure avec vous dans les grands débats du matin à 9h moins le quart et également avec Elisabeth Lévy tout à l'heure à 8h15 qui reviendra sur l'attitude selon que l'on soit de droite ou de gauche sur cette notion aussi de parrainage avec le petit échange hier. Il y a David Lisnard d'à côté, vous l'avez évoqué, et Fabien Roussel également dans un instant.
Eh bien, à suivre, ben, c'est les témoignages, 0826 300 300, c'est Patrick qui nous appelle de Marseille. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Bonjour Patrick. Vous voulez revenir, vous, sur l'accident de chasse, hein, dans le Cantal ce week-end ?
Oui, tout à fait, parce que je suis un peu concerné en parallèle.
Oui.
Et j'ai pensé à cette demoiselle, ça peut arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui.
Ouais.
En fait, moi je suis travailleur et je randonne aussi dans les collines de Marseille. Et j'ai souvent interpellé, je me suis retrouvé souvent dans des parties de chasse. Donc j'ai interpellé les chasseurs en leur demandant pourquoi il n'y avait pas de base de données simple sur la région marseillaise, sur la région de PACA, qu'on pourrait consulter le matin avant de partir courir. Il y a une battue à un endroit et ben, on ne se rendrait pas à la battue tout simplement. Et on m'a répondu qu'ils ne savaient pas, qu'il n'y avait pas. Alors peut-être que ça existe, je ne sais pas.
Alors ça commence... Non mais alors, vous avez raison d'alerter sur ce sujet, Patrick, parce que ça commence à exister. Il y a par exemple en Bourgogne, des chasseurs, la fédération locale, je ne sais plus dans quel département, qui a lancé une application pour dire, voilà, il va y avoir des battues, il va y avoir des territoires de chasse ce week-end ou tel jour. Ils ont commencé à lancer cette application et je crois que ça commence à se développer au niveau local à chaque fois. Et c'est une bonne idée, c'est ce que vous voudriez, quoi.
Ben nous, si vous voulez, nous, dans la, enfin moi, personnellement, dans la région de PACA, ça n'existe pas, je n'ai jamais vu. Ouais. Bon, nous, par exemple, quand il y a un fort mistral, on essaie de consulter pour voir si les calanques sont ouvertes, si on peut aller courir, si on peut aller marcher. Ouais. Ben, ça serait simple, puis on ne se rendrait pas sur la partie de chasse. On va pas, moi, j'ai rien contre les chasseurs, bien au contraire, il n'y a pas de souci. Surtout que quand on fait des randonnées, on peut marcher sur des terrains, des DFCI, donc c'est assez grand, à la limite, on est en vue. Mais souvent, quand on court ou quand on fait du VTT, on est dans des petits chemins, des petites singles. Et ben, le bruit ou autre, ça peut alerter un chasseur qui... dans l'affolement, tire sans le vouloir, bien évidemment. Mais si on avait tout simplement une base de données, on consulte et puis on ne se rend pas sur le lieu. Et comme ça, chacun est tranquille de son côté. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura plus d'accident. Enfin, c'est simple et c'est facile à réaliser, je pense.
Oui,
je pense
ça, c'est oui non, mais c'est vrai. Et ça permettrait une cohabitation sur le terrain. Parce que, évidemment, sinon, c'est assez compliqué. Et ça a changé beaucoup les pratiques. Il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, quand on savait qu'il y avait de la chasse à la campagne, on évitait de sortir. Bien souvent, on était mis en garde. Aujourd'hui, parce qu'on connaissait, aujourd'hui, c'est différent. Il y a des promeneurs, des randonneurs qui viennent d'un peu partout. Et encore, cette jeune fille dans le Cantal, elle était du coin. Hein. Elle venait pas de.
Ouais. Et puis le but, c'est que le fait, c'est nous, on se raconte, on est sur le fait accompli quand on arrive à un lieu. On a fait de la route, on arrive dans une campagne, dans une colline, on va faire un entraînement, on arrive, il y a les panneaux battus, etc. Mais on est devant le fait accompli, donc on a fait la route, on ne va pas retourner chez nous,
c'est
etc. Alors, bon, j'ai toujours croisé des chasseurs sympathiques, on a discuté, justement, on essaie d'avoir une collaboration, mais je pense que ça serait très simple et ça éviterait beaucoup de problèmes.
Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est...
on pense aux deux jeunes filles, hein, parce que c'est terrible pour les deux.
Parce que hier, à la suite de ce drame, donc, il y a eu des réunions et le président de la Fédération des chasseurs s'est réuni avec d'autres pour pouvoir trouver un certain nombre de solutions. Et ça, évidemment, ça en fait partie, mon cher Patrick. Merci de nous avoir appelé de Marseille. Ça va ? Ça souffle pas trop ce matin du côté de Marseille ?
Oui, ça souffle, oui, justement. Ça souffle. Le ciel bleu, c'est ce qui nous donne.
Toujours. Ne vous plaignez pas.
Hein. Envoyez-nous du soleil. Tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick. Et bonne journée. Dans un instant, on reviendra sur ce nouveau plan anti-chute à venir pour les personnes âgées. À tout de suite, 7h44.